tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Radio Grenouille. 10 minutes avec
la rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
Aujourd'hui, 10 minutes avec Frédéric Martel, chercheur, spécialiste des États-Unis, animateur à France Culture, chroniqueur à France Info et auteur de Smart, enquête sur les internets aux éditions Stock. Donc bonjour Frédéric Martel.
Bonjour, merci de m'inviter à Radio Grenouille.
Aujourd'hui, alors on va parler avec vous du numérique, du web et de façon assez internationale. Première question, l'internet se conjugue au pluriel aujourd'hui?
C'est pas tellement qu'Internet se conjugue au pluriel, même si vous faites référence au sous-titre de ce livre qui s'appelle Smart, enquête sur les internets au pluriel, avec d'ailleurs un i minuscule. C'est plutôt que la grande conversation globale que nous promettent les géants du net. Au fond, lorsqu'on lit les patrons de Google ou de Facebook, tout le monde serait aujourd'hui dans une même conversation globale. Et ceux qui critiquent aussi Internet, d'ailleurs, qui ont peur de cette conversation globale qui détruirait les langues, les identités, les territoires, en fait, est assez fausse. Même si les outils peuvent être américains et donc globaux, et on sait que Google, Facebook, YouTube, mais aussi Twitter ou Netflix sont globaux, la plupart des conversations qui ont lieu sur Internet sont en réalité très territorialisées, elles sont très fragmentées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont obligatoirement locales, elles peuvent être globales, elles peuvent être régionales ou nationales, mais même quand elles sont globales, elles sont très liées à une sphère très spécifique, elles sont liées à une langue, elles sont liées à des intérêts particuliers, les otaku, les femen, les je ne sais pas quoi, les beers, etc. Et donc qui font que toutes ces conversations sont très très fragmentées. Donc c'est ça essentiellement la conclusion du livre. Non pas d'ailleurs, c'est pas un constat idéologique, c'est vraiment un constat à partir d'une enquête de terrain menée dans une cinquantaine de pays où je suis allé pour voir comment ça se passait Internet sur le terrain.
Ça existe vraiment l'Internet local, l'Internet de proximité ?
C'est pas obligatoirement de proximité, même si ça l'est aussi. Vous avez des sites par exemple comme Nextdoor, par exemple, qui s'intéresse à vos voisins. Et c'est un site qui réunit des voisins. Et même lorsque vous êtes sur Facebook, en réalité, vous êtes dans un Internet de proximité. Parce que, en réalité, la plupart des gens qui sont sur Facebook, leurs amis ne sont pas en Inde, au Brésil et en Russie. Ce sont essentiellement des gens qui sont comme eux dans le même lycée, comme eux dans la même ville, comme eux dans une communauté. Donc, en réalité, un des éléments très forts d'Internet, c'est qu'il n'abolit pas les frontières. En réalité, il les consacre et on a une sorte de loi qui est que les contenus, contrairement à ce qu'on croit, ne voyagent pas nécessairement facilement sur le web, même s'il y a bien sûr de nombreuses exceptions. Je ne sais pas, la vidéo de Nyan Nyan Style, le baby bump de Beyoncé ou tout ce qui trait à des contenus globaux et qu'on voit massivement.
Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ça, de Gangnam Style, par exemple, de ce genre de phénomène?
Ce sont des phénomènes qui sont globaux, qui sont vus par des centaines de millions, voire des milliards de personnes, mais ça ne représente qu'une petite partie des contenus consommés. Lorsque vous êtes en Inde, lorsque vous êtes au Brésil, lorsque vous êtes dans les pays arabes, vous apercevez que les gens très massivement consomment des contenus dans leur pays, dans leur langue, et c'est cet Internet, je dirais, territorialisé qui me paraît être l'avenir du web et non pas le global. Encore une fois, quand je dis territorialisé, c'est un territoire qui peut être parfois symbolique. Les frontières fixes avec des douaniers et heureusement et des visas n'existent pas sur Internet. Mais en réalité, on recrée des contenus qui sont très territorialisés grâce à ces langues, etc. Et aux consommateurs, aux utilisateurs d'Internet. Aujourd'hui, il y a 2,7 milliards à peu près d'internautes à travers le monde. Il y en aura 5 milliards probablement, selon les prévisions, en 2020. 2020, c'est bientôt, c'est dans 5 ans, un peu plus de 5 ans. Par définition, les nouveaux venus sur Internet seront plus localisés, ils parleront d'abord leur langue, ils ne sont pas forcément bilingues en anglais ou en d'autres langues. Et donc c'est ça l'avenir, me semble-t-il, d'Internet.
Un cas particulier d'ailleurs, la Chine, où le web est presque nationalisé, c'est ça ?
En fait, la Chine, vous avez raison, c'est un Internet, je dirais, c'est une sorte d'intranet. Là, pour le coup, il y a des frontières, presque avec des douaniers et des visas. Et vous avez un Internet qui est fermé, qui est contrôlé parce que la Chine, pour des raisons à la fois de censure politique, mais aussi de patriotisme économique, ne souhaite pas qu'on puisse y rentrer et en sortir facilement. C'est un modèle extrêmement original, critiquable, bien sûr, mais qui montre aussi une des définitions du web, à savoir qu'il est très territorialisé, puisqu'on est capable de faire des systèmes très fermés. Et même quand ils ne sont pas fermés, je ne sais pas, par exemple en Allemagne, où tout est ouvert, en réalité, encore une fois, là, les contenus sont très allemands en Allemagne.
Par exemple, en Chine, comment ça se passe, Internet ?
Ça se passe, si vous voulez, vous n'allez pas sur Facebook, vous allez sur Zhenzhen, pour le dire en chinois, c'est-à-dire Renren, si on l'écrit en caractère latin. Vous allez sur Baidu, qui est l'équivalent de Google, sur Youku, qui est l'équivalent de YouTube. Vous allez sur les Weibo, qui sont les Twitter, il y en a 4 d'ailleurs en Chine. Vous allez sur QQ, qui est la MSN, ou sur Alibaba. Alibaba, en Chine, c'est l'équivalent d'Amazon, de PayPal et de eBay. Et le volume d'affaires d'Alibaba est aussi important que ces 3 sociétés américaines réunies. Ça dit quand même la puissance du web chinois.
Il y a Internet dans les bidonvilles, Frédéric Martel ?
Les bidonvilles, ça dépend où ils sont, où ils se situent. Les favelas à Cuba, il n'y a pas Internet. Mais les favelas au Mexique, au Brésil, il y a très massivement Internet, ainsi que dans les townships d'Afrique du Sud, dans les grands ghettos comme Kibera, et toutes les villes dont je parle là sont des endroits où je suis allé, à Kibera qui est un grand ghetto du Kenya, en Inde, dans les bidonvilles, etc. Vous avez aujourd'hui de plus en plus souvent accès à Internet, soit parce que vous avez ce qu'on appelle par exemple des LAN house au Brésil, c'est-à-dire au fond des cybercafés, ou alors grâce au smartphone qui est présent aujourd'hui massivement dans beaucoup d'endroits. On peut même dire qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont accès à un téléphone de base. En Afrique, pratiquement tout le monde a un téléphone de base. Dans 5 ans, ce seront des smartphones. Ces téléphones de base vont se transformer. Et grâce au nouveau smartphone à 30 $, une grande majorité des citoyens va pouvoir accéder à Internet via son smartphone. Donc la révolution, pour répondre à votre question des bidonvilles, la révolution de l'accès à Internet va passer par le smartphone.
Et quel rôle le web peut jouer ?
Le web, il peut jouer beaucoup de rôles. D'abord, c'est un outil de revitalisation urbaine. Ça peut être aussi un outil d'éducation, c'est un outil d'accès à l'information. Donc moi, je ne suis pas un idéaliste en pensant qu'Internet va, que les talibans ont intérêt à avoir peur parce que Internet arrive, ou que tout le monde va être éduqué grâce à Internet. C'est évidemment des processus beaucoup plus complexes qui vont prendre du temps. Mais il est clair que c'est un outil parmi d'autres. Et lorsque le Brésil émerge, par exemple, que des dizaines de millions de Brésiliens sortent de la pauvreté, passent des classes dites E, aider, c'est-à-dire des classes très pauvres ou qui vivent dans les favelas et qui atteignent la classe C, c'est-à-dire une classe moyenne, il est évident que beaucoup de facteurs jouent un rôle. Les technologies et le téléphone portable, l'Internet aussi, jouent un rôle parmi d'autres, mais il est clair que c'est un outil d'ascension sociale.
C'est quoi l'islam numérique ?
Ce qui est fascinant dans l'Internet dans les pays arabes, dans les pays musulmans, c'est qu'il peut jouer des rôles différents. Il peut à la fois être porté et défendu par les islamistes, dont moi j'ai suivi le Hezbollah par exemple au sud Liban, le Hamas et le djihad islamique à Gaza, ou encore les frères musulmans en Égypte, et tous ces groupes, qui certains d'entre eux sont des groupes terroristes, en tout cas catalogués comme tels par l'Union européenne, utilisent Internet à visée, islamique et pour mener des combats islamistes. Et en même temps, dans les pays arabes et musulmans, vous avez aussi des start-up très nombreuses qui défendent d'autres types d'applications et qui défendent d'autres types de valeurs, qui peuvent être d'ailleurs tout aussi islamistes, mais aussi parfois, je ne sais pas, en défense des femmes dans l'islam, en défense du nationalisme pan-arabe et non pas de l'islamisme, ou par exemple des groupes militants pro-gays qui vont défendre aussi leurs valeurs. Donc c'est en fait une bonne définition d'Internet qui n'est ni bon ni mauvais en soi, qui permet au fond de défendre des valeurs multiples, et donc le futur d'Internet dépend très fortement de ce qu'on va en faire.
Concrètement, Internet aujourd'hui, c'est pas vraiment régulé ?
Au fond, Internet n'est pas régulé, et je dirais même, pour prendre une position plus personnelle, qu'il ne faut pas qu'Internet soit régulé, qu'on ne doit pas réguler Internet, parce que c'est la neutralité du net, c'est la net neutrality qui fait la force d'Internet. En même temps, il faut réguler les acteurs d'Internet. Donc ne régulons pas Internet, mais régulons ces acteurs, notamment californiens, ceux de la Silicon Valley, Google, Facebook, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Lorsqu'ils ont des positions d'abus dominantes, lorsque ils ne paient pas d'impôts, donc dans ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, etc. Mais encore une fois, il faut protéger un Internet neutre et non régulé.
Le numérique s'invite dans les écoles maintenant. Alors, est-ce que grâce au numérique, les enfants auront de meilleures notes ?
Vous dites comme si c'était l'Internet va être dans les écoles maintenant. Vous savez, il y est depuis longtemps. Vous avez des millions d'outils, des millions d'élèves qui aujourd'hui ont accès à Internet dans les écoles, notamment dans les pays émergents. Et c'est un outil central de l'éducation, mais ça ne peut pas être le seul. Donc on peut parler des MOOCs, par exemple, qui sont des cours de masse online, très développés aujourd'hui à la fois par des institutions à but non lucrative, mais aussi par des sociétés commerciales. Je pense à edX, par exemple, qui est lié à l'université d'Harvard, à OpenYale, qui est lié à l'université de Yale, à Stanford Université, qui a développé un certain nombre de MOOCs. Et là, chaque fois, se retrouve le problème de l'éducation qui est à la fois favorisée, rendue peut-être plus accessible grâce à Internet. Imaginez quand même que dans un certain nombre de pays, vous n'aviez pas de manuel scolaire. Il n'était pas disponible dans les écoles. Grâce à Internet, vous pouvez accéder à des contenus qui sont de l'ordre de la formation, de l'éducation, etc. Dans certains pays, notamment en Afrique, où vous savez, il y a de multiples langues ethniques, régionales qui existent, parfois il n'y a même pas de dictionnaire. Vous avez des élèves qui parlent que leur langue et qui n'ont même pas un dictionnaire de leur propre langue, parce que ce sont des langues ethniques, minoritaires, qui aujourd'hui existent notamment grâce à des dictionnaires sur le web, soit fournis par Wikipédia ou les Wiki Dictionary ou par d'autres institutions. Donc c'est un vrai progrès d'accès à cette information, à des contenus éducatifs, à des dictionnaires, etc. Et en même temps, ça pose aussi des problèmes et en tout cas des menaces, parce que c'est quoi un Internet, c'est quoi une formation, c'est quoi une école sans prof, les outils et les manuscrits et les manuels, c'est bien, mais il faut aussi parfois les enseignants qui permettent d'accompagner et de former les écoles et les étudiants. Donc je dirais qu'Internet offre des solutions, mais il faut aussi les concevoir dans un dispositif d'éducation riche.
Par exemple, les outils numériques comme l'iPad dans une classe, qu'est-ce que ça peut apporter ?
Bah, encore une fois, la tablette, l'iPad, comme d'ailleurs le smartphone, donne accès à des contenus qui peuvent être éducatifs sur même des smartphones de base ou ce qu'on appelle des feature phones, c'est-à-dire des téléphones tout à fait de base au Kenya, au Cameroun ou en Afrique du Sud. J'ai vu dans ces trois pays comment on pouvait, par tout un système de keys très simple, en disposer même sur des téléphones qui ne sont pas encore smart. Encore une fois, l'Internet qui était un Internet au début de l'information a évolué vers un Internet de la communication. Aujourd'hui, il évolue vers l'Internet de la connaissance, ce qu'on appelle d'ailleurs Smart Internet, et qui va permettre d'offrir des contenus, d'éduquer. Et donc on pense que et l'éducation et la santé sont les deux nouveaux grands chantiers du développement du numérique. Mais pour que ce développement soit possible, il faut en même temps qu'il soit encadré, qu'il soit contrôlé pour éviter à nouveau des abus. Par exemple, un abus très simple, les MOOCs, ça permet à des enfants d'étudier. Mais on peut très bien lier les MOOCs aux résultats. Et donc on va identifier très vite les étudiants, je ne sais pas moi, indiens, qui seront les plus doués et immédiatement les recruter parce qu'on va le lier à LinkedIn et faire en sorte que des startups puissent ensuite recruter ces élèves. Donc c'est très bien qu'ils trouvent un travail, mais si les MOOCs sont indirectement et sans que ce soit su une manière de présélectionner les meilleurs étudiants, on voit bien la dérive à laquelle ça peut mener si c'est lié à des chasseurs de tête, etc.
Et ne pas avoir un prof physique dans ces MOOCs, Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, c'est justement ce que je disais. Le MOOC, c'est au fond un manuel scolaire, vivant, avec des vidéos, etc. Mais si vous n'avez pas la pédagogie, l'enseignant qui l'accompagne, je ne dis pas que c'est toujours obligatoire d'avoir un enseignant, mais il est clair que dans certains contextes, il est important d'avoir ce travail physique, etc. On s'est rendu compte que les MOOCs, c'était, et je le raconte dans le livre, c'était 50% de ceux qui s'y abonnaient, qui ne les ouvraient pas, et 4 à 5% seulement qui finissaient le cours complet. Donc on voit bien le problème que ça pose, le MOOC, par rapport à une école normale. Mais encore une fois, moi je suis plutôt optimiste, ce livre Smart est un livre globalement optimiste et qui croit à Internet, et en même temps il faut aussi en voir les limites.
Merci. C'était 10 minutes avec Frédéric Martel pour...
On donc, a même fait 15 minutes là, je
pour,
crois.
Donc, exactement. Pour son livre Smart, Enquête sur les internets, c'est aux éditions Stock.
Radio Grenouille, Radio Grenouille. 10 minutes. La rédaction vous invite. 10 minutes avec... Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.